VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Pour parler sur le partage des eaux du Nil entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, le Caire a accepté d'avoir une rencontre ministérielle avec le Soudan et l'Éthiopie ici à Washington au sujet du barrage éthiopien susceptible d'entraver l'approvisionnement en eau côté égyptien. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement égyptien dans un communiqué mardi soir où il dit avoir accepté immédiatement une invitation américaine pour une rencontre entre les ministres égyptiens, soudanais et éthiopiens des affaires étrangères dans la capitale des États-Unis. Objectif, débloquer l'impasse dans les négociations au sujet du grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu en Éthiopie. Le Caire craint que la construction de ce barrage entamé en 2012 par Addis Abeba n'entraîne une réduction du débit du fleuve dont l'Égypte dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. Début octobre, les négociations à Khartoum entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie avaient abouti à une impasse sur ce dossier, selon le Caire. En Tunisie, le nouveau président Kais Saied a prêté serment ce mercredi devant les élus du Parlement et les plus hautes sommités de l'État. Monsieur Saied succède au chef de l'État par intérim Mohamed Nasser, nommé pour 90 jours après le décès en juillet du premier président élu démocratiquement au suffrage universel en Tunisie, Béji Caïd Essebsi. Quasi inconnu jusque-là sur la scène politique, Kais Saied, 61 ans, a été élu à la présidence de la Tunisie avec 72,71% des voix, devançant très largement l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Politique en Guinée, des centaines de femmes opposées à un troisième mandat du président guinéen Alpha Condé ont défilé ce mercredi à Conakry au lendemain de la condamnation des principaux initiateurs des manifestations qui agitent la Guinée à ce propos depuis une semaine et qui ont fait une dizaine de morts. Plus de détails sur ce dossier avec Eric Maninakiza.
Abdourahmane Sano, coordonnateur du Front National pour la Défense de la Constitution, a été condamné à 1 an de prison ferme et 4 autres responsables à 6 mois ferme. 3 prévenus ont été relaxés. Les avocats des prévenus ont dit qu'ils feraient appel. Selou Dalain Diallo, leader de l'opposition, a parlé de honte nationale et de triomphe de l'arbitraire. Un autre tribunal de Conakry a condamné hier un responsable de l'UFR, le parti de Sidi Touré, à 3 ans de prison, dont 1 année ferme. Et le chanteur Eli Kamano a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Le FNDC est résolu à faire barrage au projet prêté au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat en 2020. Monsieur Condé ne confirme ni n'infirme les intentions qu'on lui prête. Les femmes du FNDC entendent manifester ce mercredi et les manifs doivent continuer demain.
Afrique de l'Ouest toujours, dans le nord du Nigeria, près de 1000 personnes ont été libérées des écoles coraniques où elles étaient maltraitées. Les élèves de certains de ces établissements d'enseignement étaient enchaînés. Ce genre d'école privé existe au Nigeria depuis des siècles, mais les activistes affirment qu'il leur faut une réglementation qui se fait toujours attendre. Reportage de Chika Odoa à Maïdougouri, le récit est de Yakuba Odraogo.
4 écoles ont subi des descentes de la police dans le nord du Nigeria, à majorité musulmane. Toutes avaient des directeurs qui se présentaient comme des imams enseignant aux élèves et étudiants comment devenir de bons musulmans. Ces établissements étaient également des centres pour discipliner les enfants qui se conduisent mal. Toutes ces institutions se trouvaient dans des milieux pauvres et attiraient peu d'attention jusqu'à récemment. Les militants des droits de l'homme cherchent depuis des années à réglementer ces écoles islamiques privées, mais les traditions tenaces faisaient obstacle. C'est un concept au sein des musulmans nigérien appelé Al-Majiri, qui vient du mot arabe Muhajiroun. L'historien Bouka Chabal explique.
Al-Majiri, selon l'islam, signifie ceux qui ont émigré à la recherche du savoir islamique. C'est la conception originale. C'est un enseignement dirigé par un professeur strict qui les enseigne.
One under a strict teacher
Les Almajiri, ceux qui viennent étudier, sont généralement des garçons. Un parent enverra son fils vivre avec un érudit islamique appelé Malam. Pendant de nombreuses années, le père espère et souhaite que son enfant reçoive une éducation solide en doctrine islamique. On estime à 10 millions le nombre d'Almajiri ou talibés, souvent vus dans les rues en train de mendier. Selon leurs enseignants islamiques, la mendicité aide les élèves à apprendre l'humilité. Mais Chabal, comme d'autres, affirme que les parents abusent du système, cédant leurs enfants à des maîtres courants parce qu'ils ne peuvent pas les élever eux-mêmes. Il existe une deuxième pratique traditionnelle selon laquelle les enfants indisciplinés sont envoyés dans ces écoles pour y être disciplinés. Aliou Mohamed Tonga, défenseur des droits des enfants d'Almajiri.
Si je me souviens bien, quand nous étions jeunes, ce que nos parents nous racontaient, c'est que quelqu'un a été amené chez telle ou telle personne et qu'il a été corrigé.
Des groupes musulmans au Nigeria ont condamné certaines écoles, affirmant que les propriétaires ne sont pas de véritables religieux et que les lieux ne sont pas de véritables écoles Almajiri. Des militants comme Aliou estiment qu'une réglementation est nécessaire pour séparer le bon grain de l'ivraie.
N'importe qui peut entrer, même le criminel peut entrer déguisé et dire « Je suis un malam » et il peut faire ce qu'il veut et c'est ce qui s'est passé.
Le président Muhammadu Buhari a demandé à la police de trouver et de dissoudre toutes ces écoles abusives que des journalistes ont surnommé les maisons de l'horreur.
Merci, Yacouba Ouidraogo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Relations France-Cameroun maintenant. Le ministre français des Affaires étrangères est en visite au Cameroun. À cette occasion, Jean-Yves Le Drian va encourager le président camerounais Paul Biya à poursuivre sur la voie des réformes après la libération d'opposants et l'ouverture d'un dialogue pour résoudre la crise dans les régions anglophones. Plus de détails avec Irénée Herman Umbo.
Le chef de la diplomatie française rencontre le président Biya et les chefs des partis représentés au Parlement, y compris d'opposition. Il faut que tous les acteurs politiques puissent regarder maintenant vers le futur, notamment les échéances électorales de l'an prochain qui sont nombreuses, souligne Paris. Selon l'entourage du locataire du Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian va proposer une assistance technique dans la définition d'un statut spécial. La France est aussi prête à utiliser une partie de son aide au développement pour la poursuite du processus de décentralisation au Cameroun, notamment dans les zones anglophones. M. Le Drian rencontrera par ailleurs des chefs d'entreprise français et camerounais à Douala, la capitale économique du pays. Le ministre assurera aussi le Cameroun du soutien de la coopération sécuritaire de la France dans la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram.
Au Congo-Brazzaville, les avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko, ex-candidat à la présidence, ont demandé aux autorités de libérer l'opposant afin qu'il aille faire le deuil de sa mère décédée le week-end dernier à Pointe-Noire. Le général Mokoko a été condamné à 20 ans de prison au terme d'un procès sur l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Des explications sur ce dossier avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Dans cette correspondance adressée au ministre de la Justice, quatre avocats du général Mokoko sollicitent une autorisation des sorties pour permettre à l'opposant d'aller enterrer sa mère à Pointe-Noire. Louise Onganya, 92 ans, est décédée vendredi dernier alors que son fils purge sa peine de 20 ans de prison ferme à la maison d'arrêt de Brazzaville. Juste après l'annonce de ce décès, les voix se sont levées du côté de l'opposition demandant aux autorités de libérer l'ancien candidat à la présidentielle de 2016 pour des raisons socio-humanitaires. D'autres estiment qu'il est en fin temps de décrisper le climat politique en libérant tous ses prisonniers, essentiellement le général Mokoko et André Okombi-Salissa, deux anciens candidats. Les juristes qui se basent sur les cas de l'ancien président brésilien Da Silva Lula ou bien du sportif sud-africain Oscar Pistorius, libérés eux pour aller enterrer leurs proches, estiment que cette libération provisoire de Mokoko était possible si les autorités le voulaient bien. Mais remettre en liberté pour quelques jours celui que certains Congolais ont toujours considéré comme le vainqueur de la présidentielle de 2016 peut provoquer des mouvements incontrôlés si le gouvernement n'y prend garde. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En RDC voisine, la MONUSCO, la mission des Nations Unies sur place, a annoncé ce mercredi avoir renforcé la présence des casques bleus dans la région de Minembwe, province du Sud Kivu, dans l'est du pays, théâtre d'affrontements intercommunautaires depuis plusieurs semaines. Située dans le territoire de Fizi, la ville de Minembwe en particulier est affectée par ces violences qui ont commencé après la mort d'un notable des Banyamulenge, la communauté locale rwandophone tuée par des membres d'une communauté rivale. Du 1er au 7 octobre, 4 incidents ont été enregistrés avec un bilan de 17 civils tués, dont 8 enfants et 4 femmes. Et il y a eu 2 autres morts parmi la population civile la semaine suivante. Et pour terminer, au sommet Russie-Afrique, la Russie veut au minimum doubler en 5 ans ses échanges commerciaux avec l'Afrique, a déclaré ce mercredi le président russe Vladimir Poutine en ouvrant le premier sommet Russie-Afrique. Restez à l'écoute de VOA Afrique.